Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour. Eh bien, on peut dire que la Camargue ne nous a pas ménagé pendant cet été. Nous avons perdu deux amis et nous voulons leur rendre hommage dans ce numéro de « Quelles sont les nouvelles ?». Le premier, c'est Jean-Claude Baudrou. Il est né en 48 à Nancy. Après des études de lettres modernes, il a eu une longue carrière dans l'éducation. Il a enseigné 10 ans au collège de Blénaud-les-Pont-à-Mousson, puis à l'école normale, où j'ai été son élève. Il est ensuite devenu inspecteur de l'éducation nationale, et certains des collègues qui ont pu travailler avec lui trouvaient que c'était un inspecteur hors norme. À partir de 1993, il s'est lancé dans l'écriture. Il a publié une quarantaine d'ouvrages, principalement des romans policiers pour adultes et des romans et albums pour la jeunesse. Certains affirment qu'il est décédé le 11 juillet 2024. Ses obsèques ont été célébrées le 17 juillet au crématorium de Nancy. J'y étais. C'était pas marrant. Je me suis revenu jeune normalien dans son atelier théâtre, dans l'atelier théâtre qu'il animait. Je me suis revenu dans sa classe. J'ai jamais perdu de vue. On buvait parfois trop. Mais on riait. Il avait une voix douce. C'était un charmeur. Salut. On va lire « Enfance rime avec confiance » de Jean-Claude Baudrou sur une musique de Pierre Zimmer à la foire.
Nancy, cours Léopold, mai 1960. Il doit avoir 6 ans, ou 7, mais pas plus.
Bon, ben, puisqu'on peut pas faire autrement, allez, viens.
On le prend par la main. Sans inutile douceur, sans inutile rudesse non plus.
Reconnaissez que si ça avait une hanse, comme un seau, ou un manche, comme une passoire, ce serait quand même plus pratique pour les tringler d'un point à un autre, sans blague. Non mais des fois, je t'en ficherais, moi. Ou alors un harnais, ou une barbichette, par où les tenir, enfin quelque chose, je sais pas quoi, moi. Fallait bien qu'elle ne puisse pas le garder aujourd'hui. Qu'il avait décidé d'aller faire un tour à la foire avec le grand Luc, autrement dénommé le gland Ruc, par rude et solide boutade, qui vous fait pleurer de rire en vous claquant sur les cuisses. Que d'habitude, il a jamais le temps, et que là, pour une fois, qu'il avait un moment, fallait bien, des fois, il se demande si elle le fait pas un peu exprès, pour gâcher, oui monsieur, pour bousiller. Il ne demandait pourtant pas grand-chose. Avoir son après-midi à lui.
L'enfant, qu'on tient fermement par la main, a bien saisi les tenants et les aboutissants de tout cela. Il a compris. On peut deviner pourquoi. L'expérience de la vie avec ses vicissitudes et tutti quanti. Il sait que la pression de ses gros doigts qui enserrent les siens ne traduit rien, ou pas grand-chose, ni affection particulière, ni sentiment qui mériterait d'être exprimé. Cette main enferme la sienne tout simplement pour ne pas le perdre. Car voyez-vous, ils vont à la fête foraine.
Et il faudrait pas qu'ils prennent la tangente, le chérubin. Et aller le retrouver dans une foule qui se masse autour des manèges pressés, ce serait balle pot et sac de clous. Et puis, perdre un môme à la foire, ça la fout mal. Ça vous donne une réputation de branleur de sacoche, et c'est franchement malaisé ensuite de remonter la pente, de redonner son paternel blason, en tout cas plus dur que de remonter ses bretelles.
Bref, il le retient par la menotte, façon bracelet de forçat, que faire un pas de travers lui distant les tendons du bras. Autant suivre docilement et ne pas quitter la ligne imposée. Même pour jeter un simple coup d'œil au confiseur, qui, avec des biceps épais comme des cuisses, allonge et pétrit des serpents extraordinaires aux couleurs irisées, qui vont finir en sucre d'orge, au bout recourbé, comme des cannes destinées à des nains aveugles. Le gosse marche donc, obéissant comme un gosse, avec les yeux à hauteur de gosse et les résignations qui vont avec, dans l'odeur de la poussière, dans la fraternité des marches bas, des hauts comme trois pommes, des va comme je te pousse, avec des regards raisonnablement modestes. Un peu plus loin, on lui fait contourner le sillage laissé dans la foule par l'avancée d'un nourrisson en poussette, protégé par un carénage de toile brune et par la menace tacite de rouler sur les arpions des couillons qui se mettraient en travers. Alors le gosse garde les yeux baissés, vigilant, des fois que, on n'a que deux pieds, faut les garder. Raison de plus pour baisser les yeux, sans compter que... Non mais sans blague, voilà une belle pièce. Une pièce de 5 francs, dans la poussière, là, à 2 mètres devant. C'est trop beau, pas possible. Ce serait pas des fois une pièce en chocolat qui ferait illusion, un mirage en somme. Non, il ne rêve pas le gosse. Une vraie belle pièce de 5 francs, là, juste près de la chaussure brune dont le lacet est défait. En plus, on croit rêver. La trajectoire du paternel est parfaite, pile poil dans l'axe, comme servi sur un plateau. S'il se débrouille bien, il n'a qu'à se baisser juste au bon moment et vu, ni connu, je t'embrouille, il n'aura plus qu'à saisir du bout des doigts cette fortune inespérée. Et c'est ce qu'il fait. Le geste fonctionnel, impeccable, sans trop tirer sur le bras paternel, mine de rien, le voilà qui ramasse la pièce et se redresse souplement, sans avoir le moins du monde à tirer l'attention sur son cas. Un coup d'œil à la dérobée, c'est bien ça. C'est la pièce de 5 nouveaux francs, en argent, s'il vous plaît. Le bonheur. On ne peut pas raconter ça. D'autant que lui reviennent en mémoire les pantins de bois qui grimpent le long d'une ficelle. Il les avait chassés de son souvenir pour ne pas être tourmenté par des rêves hors de sa portée. Chacun sa place et les riches seront bien gardés. Mais là, ça reflue. Il a vu ça tout à l'heure, il n'y a pas plus de 10 minutes, lorsque le glanruc s'est arrêté devant un stand qui sentait la bibine et les frites. Il y en avait des gros, des petits, des moyens, avec des prix en conséquence, vous pensez bien. Mais tenez-vous à la rampe, le premier prix, c'était une pièce de 5. Le gosse, même avec un modèle plus étriqué que le moins cher, il aurait été béat comme 15 papes en liesse. Sur l'échelle des satisfactions de la vie du gosse, le plus petit modèle de pantin, c'était la surabondance, le début de l'excès. Imaginez et partagez sa jubilation. Vous tirez la ficelle, un petit coup vers le bas et hop! Vous voyez le petit bonhomme qui replie les genoux jusque sous le menton. Vous tirez une deuxième fois et hop! Les pieds se bloquent et le corps se dépliant s'allonge vers le haut. Et de saccade en saccade, le bonhomme escalade, s'accorde jusqu'à votre main gauche, qui tient l'anneau tout en haut. Diabolique mécanique qui séduit et éblouit.
Et pas !
Il ne répond pas, le pas en question, parce qu'il a engagé avec le glanruc une conversation édifiante sur les vertus comparées des rousses et des brunes, reconnaissant aux unes et aux autres des charmes incontestables mais contradictoires. Je vous passe des détails qui moussent, d'autant que les blondes, allez savoir pourquoi, ne furent pas convoquées ce jour-là. Le gosse a renouvelé prudemment l'appel à son géniteur. Il a guetté les fins de phrases et les pauses respiratoires pour placer son signal en môme expérimenté, qui connaît les dangers qu'il y a à interrompre un adulte échauffé en pleine course, qui risque le claquage de muqueuse, ou pire encore, l'oubli de la fin de la sentence coupée en plein envol. On se prend si facilement des beignes à ce petit jeu-là qu'on élabore au fil du temps des élémentaires prudences.
Ben quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ?
Bien que le « encore » ne soit en rien justifié, le mot me poursuit.
Ben, tu te rappelles pas où ils vendaient les pantins ?
Les pantins ?
Ben oui, tu sais les pantins qui grimpent le long d'une ficelle.
Se tournant vers le Glanruc, le paternel questionne.
Tu te souviens d'avoir vu des pantins, toi ?
Non, pourquoi ? Faudrait que j'ai vu des pantins, moi.
Non, mais pas ce qu'il faudrait, c'est le gosse.
Est pris d'une inspiration subite.
Et pourquoi tu veux aller voir les pantins, toi ?
Aïe, terrain glissant. Merde alors, le gosse sent qu'il vient de commettre une imprudence, mais il ne voit ni où ni comment il aurait pu l'éviter. De toute façon, c'est trop tard pour la rattraper. Le Glanruc intervient.
Ouais, dis-nous voir pourquoi tu veux qu'on aille voir les pantins.
C'est ça, dis-y.
Ordonne le pas qui crispe de plus en plus fort ses gros doigts sur la menotte du môme.
Ben quoi ?
C'est menaçant, c'est dangereux. La main dans un étau, le gosse abandonne.
C'est parce que j'ai une pièce de 5 francs. Et avec ça, je pourrais m'acheter un pantin.
Montre.
Il pourrait retarder, risquer des atermoiements du genre « montrez quoi ?» Mais un ordre, c'est un ordre, et quand on n'a pas pigé ça du premier coup, on s'en prend une. Alors le gosse ouvre sa main, paume ouverte vers le ciel, sur laquelle lui, la belle pièce d'argent bien chaude d'avoir été serrée longtemps comme un trésor.
T'as eu ça où ?
Quoi ?
Où que tu l'as eu ?
Fort à propos, le Glanruc apporte son éclairage.
Ouais, comment tu t'es débrouillé pour avoir une pièce de 5 francs ?
Je l'ai trouvée par terre.
D'un preste mouvement, le paternel s'empare de la fortune du môme.
Je te la garde. Tu vas la perdre.
Il explique.
T'es assez con pour la paumer. Ou alors, si ça se trouve, tes poches sont trouées. Dans la mienne, ta pièce sera en sécurité. Et puis, si on repasse devant les pantins, « je te la rendrai.
» Le Glanruc glousse à cet instant précis. Comment raconter la suite ? Les haltes devant les buvettes, les rousses, les brunes, celles qu'ils sifflèrent, femmes ou bières. Et pas tant que ça d'ailleurs, parce que faudrait pas les prendre que pour des ivrognes. Il n'y eut pas de blonde, décidément, c'était pas le jour. Le gosse a suivi sans rien dire. Il a pris son mal en patience devant les buvettes, même pas déçu qu'on ne lui propose pas une limonade. Les consommations payantes, c'est pour les adultes. Cependant, de 2 millions barons, ils ont fini par tracer et repasser devant les pantins, comme quoi il y a une justice apparente en ce bas monde. Le cœur du gosse bondit. Tant de patience pouvait trouver sa récompense.
Papa ! Ma pièce !
Il ne répond pas, le pas en question, parce qu'il a engagé avec le Glanruc une conversation édifiante sur le nombre de rousses ou de brunes qu'on peut croiser dans une vie de zinc, ou une chienne de vie dans laquelle les blondes seraient absentes.
Ben quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ?
Sans prendre garde au fait que le « encore » est justifié cette fois-ci, le mot m'insiste.
Pas ma pièce.
Ta pièce.
Oui, c'est toi qui as ma pièce.
Et ben quoi ta pièce ?
Et ben pour pas la perdre, faut que tu me la rendes, parce que je vais pouvoir m'acheter mon pantin, là.
Il désigne le comptoir où les petits bonhommes rouges, des pompiers sans doute, n'en finissent plus d'escalader leurs ficelles.
Ah, ta pièce !
L'homme sourit finement, l'œil fixé sur le Glanruc, se déhanche pour plonger franchement sa paluche dans sa poche gigote des doigts là-dedans. Toute une gymnastique digitale pour retrouver le bon format, le bon diamètre. Le gosse attend et espère.
Ah, la voilà!
Et le paternel dépose une pièce dans le creux de la main du gosse.
Mais c'est pas ma pièce?
Comment ça, c'est pas ta pièce?
Le gland ruc glousse pour la deuxième fois.
Ben non, ma pièce, c'est une pièce de 5 francs, en argent. Et ceci, c'est une pièce de 10 centimes.
Oh non, tu te trompes. C'est une pièce de 10 centimes que t'as trouvée. C'est celle-là que tu avais dans la main tout à l'heure.
Tu vas pas quand même traiter ton paternel de menteur, hein, ou de voleur.
Intervient le gland ruc avec des clins d'œil de connivence qui lui ravagent la face. Le paternel pouffe, le gland ruc glousse pour la troisième fois. Le gosse a compris. Il cache son regard, baisse la tête. Allez savoir pourquoi. Sans doute pour chercher si des fois il n'y aurait pas une autre pièce qui traîne par terre, en attendant d'être échangée contre un panta. Mais il n'y en a pas. Le pas et le gland ruc, cette fois-ci, rigolent franchement.
Ah, oh, qu'est-ce qu'il est con, ce gosse.
Oh, c'est vrai, ça. Qu'il est con.
RCN, quelles sont les nouvelles?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
La nouvelle, Mae Whisper, fait partie de notre recueil collectif Meurtre sans façon. Son auteur, Christophe Gauthier, avait suivi la contrainte de raconter son histoire en 100 mots. Il a contribué également plusieurs fois à la revue. Et nous le retrouvions chaque année au festival 12 000 signes en tant que lecteur de l'association Trois pattes à un canard. Mae Whisper sera accompagnée d'Air Song de Vincent Perani pour dire adieu à notre copain.
Mae Whisper arriva au cottage par nuit de lune pâle. À la lumière de sa lampe torche, elle gravit les marches du perron de poussière et feuilles mortes. Elle trouva aisément le sésame sous la terre cuite, jouxtant l'entrée qu'elle franchit. À l'intérieur, la figure imposante de l'horloge comtoise. Plus de tic, tac, tic, tac. Une pièce manquait au cadran. Un tour de clé, clic, et la porte de façade s'ouvrit d'un coup, emportant le balancier et un corps claquant, avec fracas sur le parquet terni. Le sang s'était figé depuis longtemps sur la lame assassine, l'aiguille des heures en plein cœur. Thank you.
Muriel Carminati est une auteure, surtout connue pour ses romans jeunesse, et le premier ayant été publié en 1991 aux éditions Hachette. Deux ans plus tard, Un ange à Venise est récompensé par le Grand Prix du ministère de la Jeunesse et des Sports. Il est d'ailleurs toujours publié à ce jour. De nombreux romans ont suivi, mais également des contes, de la poésie, des albums, dont Princesse dans le vent, édité cette année aux éditions du Cosmographe. Et lors du livre Sur la place, elle dédicaçait Sur les traces de Sintra, un album de poésie publié aux éditions Traversées. Mais Muriel s'est aussi essayée à l'écriture de nouvelles pour différentes revues, et celle que nous allons vous lire a été publiée dans le dernier numéro de la revue des Refusés. Voici donc Sans modération de Muriel Carminati sur une musique de Vincent Perani.
Pour un mois de mai, ça caillait encore pas mal ce matin-là, surtout en bleu de travail. Dès qu'elle a ouvert l'entrebâilleur, il lui a adressé un large sourire et il a claironné.
Madame Cornalie, bonjour, c'est l'EDF, Madame Cornalie. Madame Cornalie.
Et l'EDF, les vieux, c'est souvent dur d'oreille et il vaut mieux forcer un peu sa voix si on veut pas les agacer d'entrée de jeu.
Bonjour.
On les reconnaît à l'éducation, les vieux. On voit qu'on les a dressés dans leur jeunesse.
Je ne vous attendais pas.
Comment ça?
Eh bien, on ne m'a pas prévenu de votre visite.
Elle se cramponnait à son déambulateur et on n'imaginait pas vraiment où elle aurait pu être à cette heure-là, à part chez elle.
D'habitude, on nous prévient comment, Madame Cornalie?
Par un courrier. Mais là, je n'ai rien reçu.
Il s'est alors tourné vers moi.
T'entends ça, Polo? Quand je disais que ça déconne de plus en plus...
Elle a haussé les sourcils. Voyant son air méfiant, il a enchaîné.
On en parlait justement tout à l'heure avec le collègue, là. Je lui disais que la poste ne fait plus son travail.
Oui.
Incroyable le nombre de courriers qui se perdent de nos jours.
Incroyable.
Les colis non plus n'arrivent pas toujours à bon port.
Ah oui?
Il faisait mine de s'intéresser.
Parfaitement, jeune homme. Début avril, ma nièce m'a envoyé un colis... que j'attends encore.
Il a hoché la tête, l'air navré.
Ouais, tout fout le camp. Si vous permettez l'expression, Madame Cornalie.
Bon, allez-y.
Elle a soupiré, après avoir ôté la sécurité de sa lourde porte d'entrée. Elle a reculé et nous, on a pénétré dans le couloir. Le couloir qui était sombre comme un coupe-gorge, mais bien agréable quand même. Car c'était chauffé ici. On a frotté nos paumes, légèrement engourdies par le froid, et il a dit...
C'est qui fait sacrément frisquer ce matin?
Excusez-moi. Vous savez, moi, je ne mets pas souvent le nez dehors. Je suis vraiment désolée.
Toujours cette manie de la politesse. Oh, ça finissait par me gaver grave. Nous précédant, elle a brusquement pilé net et s'est à moitié retournée.
D'habitude! Il y a un seul agent, et là, vous êtes deux.
Elle venait enfin de se rendre compte de ma présence. Bon, c'est un fait que je suis du genre transparent, j'ai jamais su trop parler, surtout en public. Mais pas comme lui. Déjà en primaire, lui tenait le crachoir, alors il m'a présenté.
Mon assistant.
Oui, bonjour.
Ne vous inquiétez pas, Madame Cornalie, il touchera à rien. C'est moi qui relève le compteur. Il est là pour prendre des mesures, c'est tout. Car c'est la dernière fois que vous voyez des agents ici.
Oui.
Oui. Vous allez passer au compteur Linky.
Au compteur Linky. Elle avait l'air déboussolée.
Quel compteur, dites-vous?
Il s'est pas fait prier.
Eh bien, c'est une nouvelle génération de compteurs. On appelle ça le compteur intelligent.
Le compteur Linky. Et patati et patata. Est-ce qu'elle avait tout pigé, ça?
Vous ne viendrez plus, alors?
C'est ça, madame. On viendra plus vous embêter.
Oh, mais vous embêtez pas, voyons, j'ai déjà si peu de visites.
Je l'avais rapidement devancé dans le couloir qui faisait un coude, pendant qu'il continuait à discuter le bout de gras avec elle, et je n'entendais plus vraiment ce qu'il racontait.
J'ai foncé direct dans la chambre à gauche, refermant soigneusement la porte. J'ai fouillé un peu partout. Rien entre les draps ou les mouchoirs. Rien d'intéressant non plus dans la penderie. J'ai fini quand même par tomber sur la boîte à bijoux, dissimulée au fond de l'armoire. En la saisissant, j'ai senti un certain poids. En effet, oh, c'était plein de bagues, des colliers, des bracelets, sûrement de l'or. J'ai enfourné le bazar, vite fait, bien fait, dans mes poches vides. C'était un bon début. Puis j'ai soulevé le matelas, non, rien. Sous l'oreiller, par contre, j'ai trouvé un couteau de boucher. Oh, la nuit, elle devait pas être tranquille, la petite mamie, hein. Avec tout ce qu'on voit dans le journal, hein. J'avais envie de me marrer, c'était pas le moment. Allez, du sérieux, mon gars. Bon, j'ai pris le surin avec moi, il pourrait peut-être servir. À peine ressorti, j'ai entendu...
« Il est où, votre collègue ?»
Ils ont murmuré quelque chose et puis elle a crié...
« Hé, Polo ! Le compteur, c'est dans le débarras, à côté de la cuisine. »«
J'arrive, t'inquiète, c'est le temps que je prenne les mesures. » Dans la cuisine, j'ai cherché comme un fou au-dessus des éléments. Dans le four, dans le frigo aussi, sans oublier la partie congélo. Mais nada, j'ai pensé alors à la ranger des pots décoratifs sur le buffet. Je les ai vidés à toute vitesse dans l'évier. C'est dans celui-ci, marqué farine, que j'ai fini par récupérer un petit quelque chose. 3 pièces en argent, apparemment. Mais bordel, elle devait bien avoir ses économies quelque part, cette vieille toupie. Nous, c'est du cash qu'on voulait, pour le claquer tout de suite. Par la porte communicante, je me suis glissé dans le salon, salle à manger, refermant derrière moi... pas de fric, ni sous le canapé, ni sous le coussin que j'ai éventré pour être sûr, pas le moins de bifton dans la porte revue ou derrière la télé. Avec un peu de mal, j'ai sorti alors le livret A du vase sur le bahut, je l'ai feuilleté. Oh ben, pas la gloire, hein, 310 euros seulement. J'ai eu beau retourner ensuite les récipients rangés dans le meuble, que chi, les petites lampes, le lampadaire sonne le creux. J'ai tâté le dessous de la table ronde et j'ai soulevé le tapis au cas où. J'étais toujours pas au bon endroit. Ah, j'ai sorti à pas de loup par l'autre porte qui donnait sur le couloir. Pendant que je visitais les lieux le plus silencieusement possible, il avait occupé en bavardant et fini par avancer lentement vers le débarras. Ah, je l'ai trouvé là, accroupi devant le compteur, l'air absorbé. Elle s'est égarée tant bien que mal sur le côté avec tout son fourbi à roulettes. Elle le regardait tranquillement. « J'ai pris les mesures en gros, mais il n'y avait pas grand-chose. »«
Vraiment ? J'aurais pensé le contraire.
Oh, » il avait la rage d'un seul coup. C'est clair, il s'est alors relevé d'un bond comme un fauve. Mais moi, il m'a fichu les chocottes. Il avait maintenant sa tête des mauvais jours.
« Qu'est-ce qui se passe ?»
J'avais bêtement gardé à la main le couteau trouvé sous son oreiller et elle me quittait plus des yeux, épouvantée. Il s'est avancé alors vers elle et il lui a collé une claque de malade. « Non, hé, vas-y doucement, putain !»«
Ta gueule, du con ! C'est pas toi qui vas m'apprendre comment on s'y prend avec les vieux, quand même !»
Il a pas vraiment eu le temps de me montrer, car elle s'est écroulée sur le sol, entraînant le déambulateur dans sa chute. Il a eu beau la secouer comme un prunier, le cœur avait lâché. Ah, j'étais horrifié, mais lui, il avait pas l'air non plus très joyeux, hein.
Ce sont des choses qui arrivent. Merde, merde, merde.
Ouais, ben, lugubre. On a fini de visiter la maisonnette en cherchant encore où j'étais pas allé, mais ça a toujours pas fait grossir le butin. Comme elle n'était pas trop amochée, il a déclaré...
On pourrait conclure un accident domestique.
Ouais, ouais. On allait nettoyer le désordre, fissa et basta. Alors, on est alors repassé partout. Un sac poubelle à la main, j'ai fourré les coussins tripés, le coffret à bijoux vide, on a fait disparaître au robinet le contenu des pots que j'avais déversé dans l'évier de la cuisine et on les a remis à leur place, impec sur le buffet. Comme j'étais sonné par les événements, on ne tue pas quelqu'un tous les jours. Hein. Il a décidé qu'on allait reprendre des forces avant de se casser. Dans le frigo, il a trouvé une grande boîte en carton doré. Ah, dites donc, elle se refusait rien, la vieille, pour un mois de mai. Peut-être que tout le fric de sa pension passait dans ce genre de fantaisie.
Oh putain, une bouteille de chambre, dis donc. Et du bon en plus.
Il l'a ouverte, a pris deux verres et on a trinqué.
Champagne.
Champagne.
Il n'y a pas à dire ce truc-là, c'est inimitable.
Ouais, ouais, champagne. Même les nazis nous l'enviaient, le champagne. Histoire de discuter, il s'est demandé à qui on pourrait fourguer la camelote que j'avais dénichée. Bon, il avait aucune idée de ce qu'on pourrait en tirer, et moi encore moins. La bouteille sifflée, on l'a jetée dans le sac poubelle qu'on avait laissé ouvert et l'emballage avec. En rangeant les verres, j'ai aperçu la carte qui traînait sur le buffet. C'était son petit fichier et qu'il souhaitait un bon anniversaire et la dégustation de ce cru d'exception le jour J. Ah, trop con, je me suis dit, c'est vrai, hein. À quelques jours près, elle aurait pu les fêter, ses 80 balais. Oh, j'étais écœuré. En sortant, il a soulevé le couvercle du container vide, il a balancé le sac et boum. C'était le bruit de la bouteille qu'on venait de se taper. On a rigolé ensemble, mais là, je me suis juré que plus jamais je rebosserai avec lui. Je devais avoir un sixième sens, ma parole, parce que la semaine d'après, ils nous ont arrêtés. Vous voyez que, comme c'était toujours la femme de ménage qui déposait les sacs dans ce bac à ordures, dehors, la voisine d'en face, planquée derrière son rideau toute la sainte journée, avait donné l'alerte. Ah oui, c'est logique, oui. Moi, après, j'ai atterri au purgatoire, le centre de détention pour mineurs. Mais depuis j'ai trouvé un bon travail, hein, dans un entrepôt. Question fauche, là, c'est beaucoup plus tranquille.
Après le texte de Muriel Carminati sur une musique de Vincent Perani qui s'appelle Balkanski Kosek, Evelyne, Olivier et moi, nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle émission le mois prochain, une nouvelle émission de « Quelles sont les nouvelles ?». Alors, au revoir tout le monde.
Prenez soin de vous, au revoir.
Au revoir. Ha, 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 ha.